Bonjour mes amis, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai lu cette nuit pas mal ma Bible et puis je priais pour vous. Ma jambe me fait mal, donc je suis amené à prier, mais même avant je le faisais. Et je lis ceci, « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. » C'est dans le psaume 104, les versets 33 et 34. Voilà, je dois vous rappeler quelque chose, c'est que durant la semaine, j'ai donné trois enseignements. J'ai parlé des antagonismes, c'est-à-dire des contradictions, des combats. Un des premiers points, c'était Dieu et Satan. Et deuxième point, c'était Dieu et l'homme. Ensuite, c'était Dieu et le chrétien. Bien qu'il soit sauvé, parfois, il s'oppose à Dieu. Il vit comme si Dieu n'était plus son ami. Mais Dieu était resté fidèle à son enfant, à celui qu'il a sauvé. Ça, c'était les trois premiers points. Et j'ai parlé, évidemment, ça c'était le lundi et le mercredi. Le mercredi, je suis revenu sur les points en les approfondissant. Ça sera sur le site. Ensuite, le vendredi 3, j'ai parlé sur la situation au Moyen-Orient. J'ai parlé notamment des Kurdes, beaucoup, mais d'Israël aussi, des autres pays alentours, de l'Afghanistan aussi, de tout ce qui se passe, de l'Iran. Et c'est le fruit d'une réflexion de 20 ans, passé 20 ans, et d'études de livres, de la Bible aussi. Ça vaut ce que ça vaut, moi je ne suis qu'un homme, mais je vous le dis franchement, il reste deux prophéties, dans tout ce que je vous ai dit, deux prophéties, c'est l'accord de paix entre les Palestiniens et Israël, pour la création d'un État palestinien, sur lequel il semble que ça viendra tôt ou tard, d'ici 3-4 ans. Et ensuite, quand cet accord de paix est là, Ézéchiel 38 s'accomplira. Et il y a en même temps une autre prophétie qui est très importante, c'est les armées des nations, donc de l'ONU, à Jérusalem. J'ai expliqué tout ça. Vous pourrez le retrouver sur le site, je ne peux pas me répéter. C'est trop long, ça m'investit de trop. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 5 avril. Nous allons bientôt célébrer le Christ, Jésus-Christ ressuscité, glorieux, vivant au siècle des siècles. Je vous invite à lire dans la semaine les textes d'Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 20. Je vous invite à les lire. Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 20. Et chapitre 5, versets 1 à 14. Ne négligez pas cela, c'est l'adoration de Dieu et de Christ, le bien-aimé Fils de Dieu, sur le trône de gloire. C'est extrêmement important. Pour ne pas avoir une image réduite de Jésus, souvent on a été habitué à ça dans notre milieu d'origine, une croix en bois sur un mur, dans les pièces, avec un cadavre dessus, et même dans la nature. Mais Jésus n'est pas un cadavre. Loin de là, c'est fini ça. Ça a duré quelques heures, son cadavre. À peu près 36 à 40 heures. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril, nous nous approchons de Pâques, et souvent, dans le milieu évangélique, on parle de la croix et du sacrifice de Jésus qui nous sauve. Et nous parlons, bien sûr, de notre Rédempteur adorable, que nous aimons à cause du sacrifice qu'il a fait pour nous, et du pardon des péchés qu'il nous a acquis à la croix. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt me pencher sur qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ pour nous en tant que tel. Les Écritures n'en parlent pas seulement comme celui qui s'est offert sur la croix, qui nous a sauvés. Notamment dans l'orthodoxie, la religion orthodoxe, on parle beaucoup plus du Christ en gloire, du Pantocrator, c'est-à-dire de celui qui a tout créé. Il y a d'énormes livres là-dedans, il y a beaucoup d'écrits de saints et de saintes, hein, ils les appellent comme ça, des starets, mais je vous dis franchement, il y a des écrits remarquables sur le Christ. J'ai toujours aimé chercher, lire, et voilà. Lorsque j'étais au séminaire, j'allais à la bibliothèque. Mais pratiquement, Christ est le Pantocrator, le créateur divin de l'univers, le créateur éternel, qu'il reste aujourd'hui. Le Christ, aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez une émission d'Ushuaïa avec la nature, les oiseaux, les fleurs, ou quand vous voyez un chimiste, un biogénéticien qui vous montre les chromosomes et tout ça est dans la main de Christ. C'est Christ qui dirige et qui contrôle cela. Ça, c'est le vrai Christ de l'Évangile. Le premier commandement est donc de remettre à Dieu, à Christ, l'honneur et la gloire, comme dans les textes d'Apocalypse que je vous ai cités. Donc, dans Exode, au chapitre 20, verset 3, Moïse donne de la part de Dieu un commandement à tout son peuple, et pour lui-même aussi, « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc aujourd'hui, lorsque nous allons célébrer, nous pensons déjà à Jésus-Christ qui va mourir sur la croix, c'est le rite de la semaine sainte, et puis qu'il ressuscite, il sort du tombeau vivant, c'est le seul Dieu, celui dont l'amour est plus fort que la mort. L'amour de Dieu est plus fort que la mort, et l'amour de Christ est plus fort que nos péchés, que les vilainies des hommes. Alors, c'est pour cela qu'on l'a tué, en fait. Les responsables religieux avaient bien compris. Et je vous invite à prendre Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 10. Il n'y a pas eu d'équivoque, en fait. Pour la population juive, il est évident qu'ils n'ont peut-être pas tout bien compris. Mais ils allaient acclamer Jésus comme leur roi, comme leur sauveur. Ils vivaient cela avec le cœur, comme souvent la foule, nous tous, nous faisons. Mais les responsables étaient des hommes extrêmement intelligents, très intelligents et avertis. Et ils se sont rendus compte de quelque chose qui n'allait pas de la part de Jésus. Pour eux, ça n'allait pas. Donc Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 6, dit... Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous imaginez ce que Jésus dit ? Il est sur terre. Il a l'aspect physique de nous tous. Et Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Connaître, dans ce sens-là, dans l'évangile de Jean, c'est le mot d'intimité, de relation profonde entre l'homme et la femme. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors, voilà, vous voyez, il y a une profonde unité entre Jésus et Dieu, et c'est provocant pour les hommes religieux. Extrêmement provocant. Qui sont de bonne foi. Ils sont de bonne foi. Il ne faut pas les salir. Hein. Ils sont de bonne foi. Ils cherchent à faire ce qui leur semble bon. Alors, je vous rappelle dans Jean chapitre 11, pour la résurrection de Lazare, chapitre 11, verset 40, Jésus lui dit à Marthe, hein, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Vous imaginez la gloire de Dieu sur terre à ce moment-là? Ça veut dire quoi? C'est comme si c'était au ciel. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Vous vous rendez compte qu'un homme, le fils du charpentier de Nazareth, qui ose dire « Tu m'exauces toujours. » Mais ça, c'est une provocation invraisemblable. Moi, nous avons logé un couple musulman, et je me rappelle, ce couple, il priait, il jeûnait, plus que le ramadan, il faisait encore 3 autres mois, séparément, de jeûne. Il n'avait pas les papiers. Et puis il me disait, mais Dieu ne m'entend pas, Dieu ne fait rien pour moi. Et je ne sais pas, à un moment donné, je me suis un peu lâché, je ne me suis pas surveillé autant que les autres fois. Je lui ai dit, si tu le connaissais, tu n'aurais pas prié et jeûné 4 mois. Il n'y a pas besoin de répéter 100 fois et 1000 fois, Dieu... Si c'est une vraie demande, il l'accorde. Mais il faut la demander au nom de Jésus. Alors, il m'a répondu, « Mais toi, tu connais Dieu ?» Il était stupéfait. Et puis, il ne s'est pas interrogé sur qui était Jésus, parce que c'est interdit pour lui de s'interroger sur Jésus, parce que les chrétiens en parlent en mentant, d'après le Coran. Mais vous voyez, cet homme est revenu plusieurs fois après. Il a eu les papiers, il est revenu. Il cherche toujours. Mais il faut qu'il saute tous les obstacles qu'on lui a mis dans son cœur, dans son âme, pour aller à Jésus. Et ça, c'est Dieu qui viendra à sa rencontre, évidemment. Ce n'est pas lui qui pourra y aller tout seul. Donc, dans l'attitude que Jésus a, il y a quelque chose d'incompréhensible pour les hommes religieux, et ils se sentent provoqués. Hein? Dans Jean, chapitre 10, verset 33, les Juifs, donc les responsables, hein, ce n'est pas tout le monde, répondirent à Jésus, ce n'est point pour une bonne œuvre, une bonne action que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et vous voyez ça, cette doctrine-là est exactement celle des Juifs orthodoxes, religieux aujourd'hui. Ils ne peuvent pas sentir les chrétiens. J'ai logé à Beth-Shemesh, et dans ce quartier où j'étais, il y avait des Juifs noirs, Félacha. Et nous étions quelques évangéliques là dans le quartier, vivant avec eux pendant 12 jours. Mais au nord, au-dessus de la ville bourgeoise, c'était tous des Juifs orthodoxes, mais très orthodoxes. Un jour, un évangélique baptiste a été audacieux et a été commencé à distribuer les évangiles. Ben, il était sur le point d'être lapidé, il a fallu la police israélienne pour l'arrêter. Vous voyez ? Parce que c'est un blasphème de croire en Jésus pour un juif orthodoxe. Et c'est eux qui ont transmis cela aux Arabes lorsqu'ils ont été dispersés par Titus en 79, et puis ensuite après la révolte de Bar Kochba en 135. Ils sont partis dans tous les pays, descendants des Arabes, d'Ismaël, descendants d'Ismaël, et ils ont transmis cette doctrine. Et cette doctrine est dans le Coran, forcément. C'est une doctrine qui était extrêmement sincère de la part des responsables. Comment est-ce qu'un homme, Jésus de Nazareth, même qui fait des miracles, il parle comme ça, qu'il se dit Dieu? C'est un blasphémateur, c'est Satan qui l'a envoyé pour nous séduire. Il fait de la sorcellerie, il fait de la magie blanche pour nous séduire. Donc, ne jugeons pas trop vite ces hommes, je pense qu'aujourd'hui il y en aura encore qui feraient comme ça, peut-être même parmi nous. Aujourd'hui, nous allons lire, puisque Jésus est Dieu, Jésus, je vous ai dit qu'il fallait s'intéresser d'abord à qui est Jésus, pour à la fin de la semaine s'intéresser pourquoi il est mort sur la croix, et pour qui. Dans Jean chapitre 1, j'espère que vous entendez, pardonnez-moi, ça sera sur le site pour ceux qui n'entendent pas.
Si vous entendez, juste faites-moi ça. Ok, je vois un pouce en bas. Faites ça si vous entendez. Un pouce là. Ok, bon
oui.
Pour Viviane.
Voilà.
Super, merci.
Oui, allez, c'est bien. Et pour Jean-Christophe?
Il m'a dit que je lui envoie les prédications après.
Ah oui, c'est dommage pour Jean-Christophe. Alors pour... Et Valérie? Ça va? Valérie, tu entends? Oui. Alors... Jean chapitre 1, verset 1 à 18. Au commencement était la parole, en archéo, ça veut dire avant l'histoire, avant que quelque chose existe. Était, c'est un verbe qui n'existe pas en français, ça veut dire a été, est et sera. La parole, le logos en grec, dabar en hébreu. La parole était avec Dieu. Ektéou, ça veut dire à côté de Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est clairement une divinité où l'on voit Dieu le Père et Dieu le Fils. Et la parole, le Logos, c'est le Christ. Hein. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors je voudrais vous quand même éveiller votre esprit et que vous ayez un autre regard quand vous voyez des émissions scientifiques sur la nature. Quand on étudie les génomes, les chromosomes, les codes génétiques, etc., tout ça, et qu'il y en a qui prétendent que c'est l'évolution, bon, ils sont à côté de la Bible, de la révélation biblique. Ils sont tout à fait en dehors. Je ne dis pas qu'ils font exprès. Pas plus que les prêtres juifs ont tué Jésus. Ils ne font pas exprès, généralement en tout cas. Mais ce qu'il y a, c'est que tout ce qui est là dans les codes génétiques, tout ce qui se fait aujourd'hui, quand un enfant est engendré, quand une fleur apparaît à la sortie d'une herbe, quand une semence est déposée par une fleur dans le sol, tout cela, c'est l'œuvre de Christ. C'est pour ça, je vous dis qu'il y a des écrits formidables dans l'Église orthodoxe qui sont dignes de foi. Je ne dis pas que tout y est, dans aucune Église d'ailleurs, pour moi. Il y a Dieu qui est vrai, qui est la vérité, mais il y a une adoration du Pantocréateur, du créateur de tout, à l'œuvre aujourd'hui. C'est ça qu'il faut savoir. Donc il faut avoir une notion de Jésus éminente et supérieure, totale. Totale. Et pas rabaissée, banalisée. Alors, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. Je vais un peu plus loin. Au verset 9, cette lumière était, c'est toujours un verbe, a été et sera. Ça veut dire que c'est éternel. La lumière, la véritable lumière, donc de la vérité, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Tout homme peut connaître la vérité par le Christ. Et pourtant, quand on voit l'humilité, la douceur, la façon dont Jésus a été sur terre, il n'y a rien, il n'y a aucun orgueil. Et il n'a pas choisi une période où il y avait Internet, où il y avait des conférences, il y avait des écrans, etc. Il a choisi d'être à Nazareth et puis de circuler en Galilée, Samarie, Judée, et parfois d'aller jusqu'au bord de la Syrie, hein, rencontrer une femme syrienne et la guérir, une femme de quelqu'un du Liban, tiré Sidon. Et pratiquement, il a montré son amour aussi pour les soldats romains, etc. C'est une lumière pour tout homme. C'est pas seulement pour les Juifs, c'est pour tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Penchez-vous sur ces versets-là, puisque nous avons le confinement. C'est une grande grâce en un sens, les amis. Moi, j'avais pris un engagement, il y a de ça 12-13 ans, pour la maison de prière, qu'il fallait 3 heures de prière par jour dans mon ministère. Je l'ai fait parfois je ne l'ai pas fait. Affairisme, etc. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai supplié qu'on ait quand même cette maison de prière, malgré ma désobéissance. Nous avons reçu. Mais maintenant, j'en tire une leçon. Plus jamais je ne dois trahir cet engagement. La priorité est l'adoration de Jésus-Christ et de son Père. La priorité, dépasser les limites de la petite prière. Tomber dans la prière, dans la vraie relation vivante avec Dieu. Et restez-y, puisque après la mort, éternellement, nous sommes dans la louange et la prière. Entraînons-nous pour la longue vie éternelle qui ne sera que louange et prière. Alors, je lis ceci au verset 12, Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dynamis, le mot dynamite en français. C'est une puissance énorme. Même pour les bombes atomiques, on dit mégatonnes, 25 mégatonnes, 2000 mégatonnes. Mégatonnes, c'est millions de tonnes de dynamite. C'est l'équivalent de 25 mégatonnes, c'était Hiroshima, Nagasaki. 25 millions de tonnes de dynamite, la bombe de Nagasaki d'Hiroshima. Eh bien, le Christ a cette puissance qui dépasse toutes les bombes atomiques. La puissance qui dépasse tous les astres, c'est lui le puissant. C'est lui le tout puissant. J'ai eu la joie de voir un homme d'origine musulmane qui habitait ici pas loin, à 10 km, qui a été guéri du cancer du pancréas, qui a reconnu tous ses péchés, qui est devenu chrétien dans son cœur, peut-être pas de façade parce qu'on le surveillait de tous côtés dans sa famille, mais 3-4 ans après, il est mort d'un cancer à la tête. Mais j'étais tout près de lui quand il est mort. Il a confessé que Jésus était le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, le Prince de vie, Père éternel, le Roi des rois. À la résurrection, il sera là. Je dois taire son nom parce qu'il y a une famille pas loin d'ici, dans le coin. Certains sont pour la foi chrétienne sans y être, et d'autres sont complètement opposés. J'ai reçu même parfois des attaques, des insultes et des menaces. Mais voilà, la puissance de devenir enfant de Dieu est originellement dans les mains de Christ. Vous devenez enfant de Dieu si vous lui demandez d'être devenir enfant de Dieu, si vous vous présentez à lui pour le devenir. Et pas autrement, pas subjectivement, pas par des idées, par des efforts, des mérites ou une religiosité reçue des parents ou du milieu. Alors, nous lisons au verset 13, les enfants, devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, donc pas des parents, ni de la volonté de la chair, pas l'éducation qu'on aurait donnée à un enfant, etc., ou la force d'autosuggestion que j'ai, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, nous venons de voir que la puissance de devenir enfant de Dieu vient de Christ, de la lumière, et en même temps, on dit ici, de Dieu, ça vient de Dieu. C'est l'équivalent, la lumière véritable, le Logos et Dieu, c'est la même personne. Alors, continuons, verset 14. La parole a été faite chair, c'est-à-dire humaine, elle est devenue homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous imaginez qu'une personne aussi éminente, aussi puissante, aussi grandiose par son savoir, son intelligence, sa sainteté, sa gloire, prend pour un certain temps un aspect humain. Et lisez Philippiens chapitre 2, vous verrez, il a pris la condition d'un esclave, d'un simple homme. Et nous avons, il était plein de grâce et de vérité. Cette personne a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Il n'y avait aucun péché. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Vous vous rendez compte? Tout ce qui est affirmé là était chanté pendant plusieurs siècles dans les pays, la Turquie, la Grèce, dans les pays qu'on dit orthodoxes maintenant, parce que Jean avait fondé les églises et le culte commençait par le chant des 18 premiers versets de l'évangile de Jean. Et qu'est-ce qu'il est mis encore? Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, nous voulons connaître Dieu, il faut rencontrer Jésus-Christ. Il faut lui dire, dans le secret du cœur, il faut lui dire. Il est vivant, il est tout puissant. Alors qu'il le voudra, il se révélera à vous. Et surtout, ne basez pas cela sur une influence des autres, allez dans la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, cherchez, lisez, et laissez-vous emporter par le Saint-Esprit, l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, pour connaître Dieu, pour connaître son Fils Jésus-Christ. Alors, je voudrais vous prendre Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Vous imaginez que Jacques, le frère de Jésus, qui est responsable de la première église du monde, à Jérusalem, qui a été assassiné, hein, il dit ceci, ne vous y trompez pas. Donc, il faut garder ça comme une vérité. Et toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Et la parole de vérité, c'est qui? C'est le Christ, c'est Jésus. C'est afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Qu'est-ce que c'est que les prémices? Eh bien, avant que le royaume de Dieu arrive sur terre, il faut que le monde, un croyant, le monde parfois même hostile à Jésus, le monde qui ne comprend rien à Dieu ni à Jésus, puisse voir des enfants de Dieu. C'est la première récolte, si vous voulez. C'est ce que Dieu a déposé comme des signes vivants sur terre, que des humains devenus enfants de Dieu, par la volonté de Dieu, bien sûr, par la grâce de Dieu, soient comme les prémices. Non. Ça annonce la récolte.
La référence, parce que moi, j'ai pas ça.
Il ne faut pas l'aborder.
Jacques
1, 18, 16.
Ah, voilà.
16 à 18.
Okay,
alors, Jacques 16.
Jacques 16,
verset 1 à 18. Colossiens, maintenant, je vais dans Colossiens. Oui, je m'étais trompé.
Jacques.
Et maintenant, je vais dans Colossiens, chapitre 2. chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père. Donc ça, c'est le culte du dimanche. Hein. En principe, c'est le culte de tous les jours, quand on se met tout seul dans sa chambre, ou qu'on est dans la nature, ou qu'on est en famille, pour dire merci à Dieu. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, donc en Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, donc l'obscurité venue du péché, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand quelqu'un va en Chine ou aux États-Unis, il prend un avion pour le transporter. Il n'y va pas comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Dieu qui nous a transportés. Il nous prend et il nous transporte et il nous conduit dans le royaume du Fils de son amour. Donc, lorsque vous déposez votre vie au Seigneur Jésus, il y a un transport. Il y a quelque chose. Vous êtes porté autre part. Vous êtes dans un autre monde, une autre vie spirituelle. Vous n'êtes plus dans le monde des ténèbres, de la séparation avec Dieu. Ok ? Il faut faire très attention à l'œuvre de Christ. Elle est formidable. Lorsqu'on est dans le domaine, le royaume du Fils de son amour, on ne retourne pas avec ceux qui iront en enfer.
Répète-la.
Alors, Colossiens 1, verset 12, et je continue au verset 14. Le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça, c'est Pâques. C'est pour dimanche prochain, le message. Il est l'image de Dieu invisible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais insister, il est l'image, l'icône de celui que nous ne voyons pas, il est l'expression visible et concrète venue sur terre pour nous montrer qui est Dieu. Et le premier-né de toute la création, ça veut dire, prototokos, en grec, c'est le droit d'aînesse. Il conduit ses frères et ses sœurs vers le Père. En l'absence de la présence visible du Père, le grand frère nous conduit vers le papa. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc les anges, les archanges, etc. Sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on est en train de travailler dans le jardin, ou qu'on est en train de travailler chez quelqu'un, peu importe, ou qu'on se promène, il faut savoir, il faut le reconnaître à Jésus, il faut lui parler, j'ai été créé pour toi. J'ai été créé pour toi. Et j'ai été créé par toi. C'est la base de toute la reconnaissance. C'est normal. C'est tout à fait normal. Si vous avez des enfants, votre enfant, il est passé par votre ventre, ou par votre semence, mais il est passé par vous. Mais nous, nous sommes passés, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nous sommes, même avant déjà, en étant créés simplement, nous sommes passés par Christ. Nous ne pouvons pas échapper à cette réalité, c'est la Bible qui l'affirme. Donc rendons grâce, déjà nous sommes créés et maintenus en vie jusqu'au dernier souffle. Nous sommes créés et nous vivons par Jésus. Pour lui, en Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né, prototokos, c'est-à-dire celui qui a le droit d'aînesse, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, les anges aussi. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça, c'est Pâques. C'est verset 20, que nous aborderons dimanche prochain. Mais Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Et ça, c'est fondamental. Les écrits de Jean Chrysostome, au IIe siècle, et d'un tas d'autres pères de l'Église, dans le monde orthodoxe, parlent de cette plénitude qu'est en Jésus-Christ. Et durant des siècles, il y a eu comme ça des témoins de cette foi. Et j'ai toujours été émerveillé d'un certain nombre d'écrits orthodoxes. Bien sûr, il y a eu des choses, mauvaises choses dans le monde orthodoxe, comme dans les autres, hein, catholiques, protestants, etc. Alors, Je voudrais aller plus loin. Au chapitre 2, verset 2. Lorsque Paul souhaite que les chrétiens de Laodicée soient enrichis, soient consolés, soient unis dans la charité, il dit aussi, au chapitre 2, verset 2, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Le mystère de Dieu, ça veut dire quoi? C'est le dévoilement. C'est un don de Dieu pour que je connaisse Jésus-Christ. Je ne pourrai jamais humainement le connaître. C'est divinement, par le Saint-Esprit, que je peux découvrir qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Christ, Dieu venu en chair sur terre. Ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, Jésus-Christ n'est pas un inconnu. Il est simplement mystérieux pour les incroyants. Mais à partir du moment où on se présente devant le Seigneur, humblement, et qu'on lui donne sa foi, sa confiance, qu'on lui a montré notre pauvre nature pécheresse, eh bien, il nous découvre, il nous dévoile peu à peu dans notre vie, ou très rapidement, la réalité de sa sagesse, de sa sainteté, bienveillante à notre égard, et qui peut traverser nos mœurs, changer complètement notre caractère. Mais il y a aussi autre chose, tous les trésors de la science. Et là, je rejoins les scientifiques chrétiens. Les scientifiques chrétiens qui voient la main de Dieu à travers tous les détails de la chimie, de la biologie, de la génétique, de l'univers. C'est le dévoilement de la science de Dieu en Jésus-Christ. Toute la science de Dieu est passée par Jésus-Christ pour créer le monde. N'oubliez pas, tout est écrit par lui, pour lui et en lui. Alors, à Dieu l'image d'un petit Jésus et d'un Jésus-Christ que humain, oui, il est devenu humain pour 33 ans. Mais le Christ venu sur terre était digne de tous nos égards, de notre respect, de notre adoration. Dans son humilité, il s'est fait proche de nous pour que nous connaissions le vrai Dieu. Mais le Christ, maintenant qu'il est monté au ciel, doit être dévoilé à ceux qui croient en lui. Il doit y avoir une nouvelle intelligence pour connaître le Jésus-Christ, pas seulement le petit Jésus de la crèche ou de la croix, comme certains mettent un cadavre sur la croix, pour connaître le vrai Christ. Et c'est ça que j'insiste aujourd'hui. Connaître le vrai Christ dans toutes ses dimensions. C'est important. Ça nous dépasse totalement. Je rends gloire au Seigneur que il m'est arrivé dans ma vie des signes qui m'ont fait comprendre sa gloire. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont eu des signes pour découvrir sa gloire. Et j'en demande toujours, et j'en verrai plein au ciel, évidemment, et vous aussi. Alors au chapitre 3 de Colossiens, verset 3, vous êtes mort, c'est-à-dire votre vie ancienne de pécheur, votre vie ancienne d'étranger à Dieu, si vous avez accepté Jésus vraiment, cette vie-là est morte, c'est fini. Parce qu'on a été transporté dans le domaine de la mort, au domaine de la vie, du Fils de l'amour. Début de l'Épître aux Colossiens. Et là, c'est dit ceci, Colossiens 3:3, vous êtes mort, donc c'est fini, une certaine vie mauvaise et ratée est finie, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée. C'est pas parce que j'ai la clé de ma voiture dans ma poche qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas sur l'écran mes souliers qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas parce que vous voyez les jonquilles, les narcisses qu'il y a dans le bouquet de fleurs devant moi pour me donner du moral, pour prêcher. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. Il y a plein de choses. Vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Vous appartenez au Seigneur Jésus. Et vous, un jour, on vous sortira de la poche de Jésus. On vous sortira de son cœur. Vous exploserez dans la pleine vie et vous lui ressemblerez. Vous lui ressemblerez totalement parce qu'il vous aura tellement travaillé, traversé par son amour et par son intelligence et sa science. La vie chrétienne, c'est une formidable aventure, glorieuse. Jésus n'est pas venu pour nous donner des cacahuètes, ok ? Et simplement pendre des crucifix dans les pièces. Et mettre des crucifix dans les campagnes, à droite et gauche. Ok ? Retenez bien, notre aventure est merveilleuse et glorieuse en Christ. Alors, maintenant allons dans 2e aux Thessaloniciens, 2e épître, c'est la ville de Salonique actuellement. 2e aux Thessaloniciens. Vous voyez, je prépare le terrain pour la fête de Pâques. Parce que il ne faut pas qu'on raccourcisse le cadeau que Dieu a donné à Pâques. Hein. Il faut le comprendre. Alors, 2e aux Thessaloniciens, chapitre 1. Verset 6. 2e aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. À 10. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc évidemment, d'accord, nous sommes devenus chrétiens, ça n'a pas été marrant, souvent on a reçu des oppositions incroyables. Et encore maintenant, vous savez, parfois c'est plus sournois. Hein. Moi je vois pour le moment dans notre entourage ici immédiat, mais ça existe. Et parfois quand je circule autre part, je vois par exemple, tout d'un coup, quelqu'un qui me double avec une rage incroyable, qui me fait une queue de poisson, mais c'est quoi ça? Je dis, Seigneur, bénis-le. Seigneur, c'est encore Satan qui veut me jouer un tour, me pousser au fossé? Bénis-le, change son cœur et son âme. Vous voyez? Alors, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Donc, l'affliction dure un certain temps, mais nous avons du repos. Ah, c'est quoi ça le repos? C'est quel repos? Avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Les anges de sa puissance. Alors je vous le rappelle, c'est Jésus, le Seigneur Jésus, dont il s'agit ici. Sa puissance. Quand je vous dis que la bombe atomique c'est rien à côté, que le soleil à côté c'est rien, ce sont des choses créées. Mais ce qu'il y a, la puissance de Christ est incroyable. C'est au-delà du Big Bang que certains prêchent. Hein. Jésus viendra donc dans sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Mais regardez un peu plus loin, continuez à lire. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, quand Jésus revient, glorifié dans ses saints, donc on verra la gloire de Jésus à travers ceux qui ont cru en lui, et admiré dans tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru en Jésus, quand Jésus va revenir, on va voir tout ce que Dieu a fait, tout ce que Christ a fait dans leur vie. Ça va être dévoilé, manifesté, et nous pourrons tous contempler l'œuvre merveilleuse de Jésus chez chacun de nous, de nos frères et nos sœurs, à travers le monde, à travers l'histoire. Et nous allons être baba. Nous allons être ébahis. Nous allons être dans la joie, dans l'allégresse. Alors, ce verset 10 est formidable. Et au verset 12, c'est formidable parce que c'est l'expression de la même vocation qui est exprimée là, au verset 12, que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Donc, glorifié en vous, je viens de l'expliquer, et que vous soyez glorifiés en lui. Nous n'avons pas de gloire en dehors de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes trop pécheurs, hein? Et puis Satan nous ramène toujours à notre boue, à nos iniquités. Et donc, nous n'avons pas de gloire en dehors de Christ. C'est lui notre gloire. Et nous serons et nous sommes déjà certifiés, glorifiés en Christ. Nous sommes certifiés. Mais ça se manifestera après. Selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Prenons la première épître de Timothée, au chapitre 6, versets 13 à 16. Combien Timothée ? Première épître de Timothée, chapitre 6, versets 13 à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Vous avez entendu ? Paul qui dit ça à Timothée. Je te recommande devant Dieu, donc en présence de Dieu, il écrit ça, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Jésus-Christ a dit quoi devant Ponce Pilate ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Et je suis venu pour faire témoigner de la vérité dans ce monde. Voilà le témoignage de Jésus à Pilate. Qu'a fait Pilate devant tous les chefs religieux ? Je ne vois pas de crime en cet homme. Je ne vois pas pourquoi vous me demandez de le tuer. Donc le témoignage a été efficace. Il n'avait pas vu de péché dans Christ, dans Jésus-Christ. Un païen qui voit quelqu'un sans péché, c'est un miracle. C'est ça. L'efficacité de la belle confession de Jésus-Christ devant Pilate. Alors, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de le vivre sans tâche et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les commandements ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le commandement que Jésus a dit. Cela résume les prophètes, la loi. Et puis, il a ajouté, vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé. On vous reconnaîtra à ce signe. Donc, voilà le commandement de Jésus. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc le retour de Jésus-Christ sera évidemment une confirmation de la royauté de Christ par Dieu le Père. Et ça sera une confirmation qu'il est le Seigneur des seigneurs et qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant la face. Devant Dieu, il y a... Devant Dieu, il y a... quelqu'un de remarquable et qui est digne d'être devant lui, son égal. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Eh bien, le Christ Jésus, devant la face de son Père, ne font qu'un. Alors, ce Jésus-Christ, ce Seigneur des Seigneurs, ce Roi des Rois, qui seul possède l'immortalité, verset 16, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc le Christ possède l'immortalité.
Désolé, je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé.
Oui. Donc, le bienheureux Jésus-Christ, seul souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs, autant que son Père, seul possède l'immortalité et seul possède la lumière inaccessible. Une lumière que nous ne pouvons pas aller chercher, mais qu'il peut nous donner, parce qu'il est la lumière. Rappelez-vous le début de l'évangile de Jean. Il est la lumière divine, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Qu'est-ce qui appartient à Jésus-Christ aujourd'hui ? L'honneur, la louange, l'adoration. Les amis, votre vie chrétienne s'enrichit dès le moment où vous avez mis l'adoration en premier lieu. L'adoration est la première œuvre du chrétien, la première œuvre de l'enfant de Dieu. Et c'est chose difficile. Moi, je confesse, j'étais lamentable et que je le suis encore. Mais l'adoration reste mon trésor précieux. Chaque fois que je le peux, quand je me lève la nuit, et la journée même, quand je suis dans mon petit tracteur, dans le champ tout seul, j'adore le Seigneur, je lui parle dans mon cœur. Alors, pas tout, enfin pas encore, mais parce qu'il arrive toujours quelqu'un à pied qui passe, il va dire, il est fou celui-là. Alors, pratiquement, je voudrais prendre Hébreux avec vous. Nous avançons, nous allons vers la fin. Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Vers les années 90, un juif d'Alexandrie, égyptien, très très cultivé, un spécialiste de la rhétorique, c'est-à-dire de l'argumentation juridique et littéraire grecque, qui s'appelle Apollos, a écrit pour tous les gens qui étaient d'origine juive, parce qu'il y en avait beaucoup en Égypte, et un peu partout dans le monde de la Méditerranée. Ils étaient devenus chrétiens, mais ils avaient tendance à retourner vers le temple, ils avaient tendance à retourner vers le grand prêtre, les sacrifices, etc. Ils étaient tiraillés. Alors il a écrit l'épître aux Hébreux, c'est-à-dire aux chrétiens d'origine juive, hébraïque. Alors voilà ce qu'il dit de Jésus dans les premiers versets, chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, eschaton, c'est depuis le moment où Jésus est mort à la croix et ressuscité, jusqu'à son retour. Hein. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. C'est un fait acquis que jusqu'au retour de Jésus, Jésus parle. Jusqu'à son retour, Jésus parle. D'abord dans sa Bible, mais il parle au cœur de celui qui l'a confessé. Il parle par le Saint-Esprit. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous y voilà encore, de nouveau il a créé le monde. Mais ce n'est pas un acte passé, c'est un acte permanent. Vous imaginez l'intelligence et la puissance de Christ? C'est pour ça que j'ai voulu prêcher aujourd'hui, vous envoyer un message sur la grandeur de Christ. Même si on l'a fait, on l'a pris pour un minus, on l'a tabassé, vous imaginez volontairement ce qu'il a encaissé pour nous, par amour pour nous. Mais son amour est plus fort que la mort. Sa gloire est revenue sur lui. Grâce au Père, à la sortie du tombeau, comme ça avait été promis au psaume 16, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, le reflet de sa gloire, les amis, vous allez vous promener, hein, vous allez dans la nature, en Savoie, n'importe où, en Ardennes, n'importe, vous voyez un lac, il n'y a pas de vent, l'eau est magnifique, c'est comme un miroir. Et pas loin d'ici, il y a une rivière comme ça, la Vière, elle est dans la forêt. Et quand je regarde l'eau, je vois tous les arbres. Je vois tout, je vois le ciel. C'est le reflet des arbres, c'est le reflet des feuilles, c'est le reflet du ciel. Et donc, le reflet me parle du ciel et des arbres. Eh bien, Jésus me parle de son Père. Il est l'empreinte de sa personne. En grec, hein, le reflet de sa gloire, c'est symbolein. Il me rattache, il fait un pont entre mon ignorance et Dieu prend des moyens pour me faire connaître, se faire connaître à moi. C'est Jésus. Symbolein, il crée un pont. Hein? Alors, et l'empreinte de sa personne. L'empreinte. Jésus a des lignes dans les mains comme nous. Et nos lignes sont uniques. Et les lignes de Jésus sur la croix étaient uniques. Et il y a des trous dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté. Et lorsqu'il reviendra, le prophète Zacharie, 6 siècles avant Jésus, dit que tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Ils verront ses mains et ses pieds, verront son côté. Et ils verront les marques. Et ses mains uniques, c'est les mains de Jésus. Il est l'empreinte de sa personne. On pourrait dire qu'il est l'expression de sa personne, mais il est aussi l'expression de son amour, sa miséricorde, qui a été vécue à la croix pour nous. L'empreinte d'une personne aimante, d'un père qui donne son fils pour nous, qu'il aimait totalement. pour qui ils ne pouvaient faire aucun reproche, aucun péché, aucune iniquité. Et ce Fils, de plein gré, en accord avec lui, paye notre dette. Et il est bien sûr, Jésus est l'empreinte, il est l'image même de la miséricorde divine pour nous, de l'expression de l'amour et du pardon accordé. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ben oui, bien sûr, Seigneur Dieu. Il a fait la purification des péchés. Donc, je vais terminer aujourd'hui. Quasiment, c'est fini. J'étais une fois chez un ami, un marabout, un imam turc. Et nous étions ensemble, nous discutions, et à un moment donné, il me dit, tu veux m'excuser, je vais aller faire ma prière. Et il prend son tapis, il va au bout, et il va prier 5-10 minutes, je ne me rappelle plus, moi j'ai prié autrement, j'ai prié Dieu au nom de Jésus pendant ce temps-là, et après il est revenu. Et je lui dis, je ne vais pas dire le prénom, par discrétion. C'était vraiment un ami, un grand ami. Je dis, X, qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ta famille et pour les gens de la mosquée? Et puis il me répond, en baissant la tête, la purification des péchés. Les amis, vous voyez bien que Dieu parle, que le Saint-Esprit parle à d'autres que nous, la purification des péchés. Alors je lui ai répondu ceci, mais mon cher X, elle l'est faite. Jésus est mort à la croix pour tes péchés, pour ceux de ta famille, pour ceux de la mosquée. Elle l'est faite. Tu t'agenouilles 5 fois par jour là pour rien du tout. Tu n'obtiendras rien là par cette prière. C'est déjà fait à la croix, c'est déjà fait au tombeau, à la résurrection. Mon cher, je t'en prie, je t'en prie. Elle l'est faite. Ne t'inquiète plus, abandonne-toi et donne ta confiance. Je lui ai donné une Bible en arabe, en turc, avec des notes, une de second, une de MacArthur, et il a rangé tout ça au grenier. Puis de temps en temps, il disait à sa femme, je vais mettre de l'ordre dans mes affaires. Il allait au grenier pour lire la Bible. Et puis il venait à 11h du soir chez moi et me demandait des explications. Il lui est arrivé plusieurs fois de me sauter dessus, de me prendre dans ses bras.
En pleine rue.
Même une fois en pleine rue, devant chez ma belle-mère, tu es mon frère. Vous imaginez ? Nous aurons des surprises au ciel. Beaucoup. Beaucoup, les amis. Dieu est bien plus grand que nous ne pensons. Il est tellement puissant qu'il a parlé au cœur de cet ami. Et il a parlé au cœur de millions d'hommes qui ne portent pas l'étiquette de chrétien et de juif. Mais ils sont déjà préparés pour le jour où Jésus va revenir. Nous serons étonnés de tout ce que nous verrons. Et finalement, toute l'œuvre du salut dépend de Christ. Il n'y a pas une église qui sauve les hommes. Il n'y a que Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Dans Jude, et puis il faut que je finisse. Jude, l'épître de Jude. Donc c'est après Hébreux, c'est après Jacques, Pierre, c'est après les épîtres de Jean, c'est Jude. C'est juste avant l'Apocalypse. Et il n'y a pas de chapitre, il n'y a que des versets, c'est une petite épître. Jésus avait un frère qui s'appelait Jude. Alors bon, est-ce que c'est son frère ou un... Peu importe. Je n'ai pas été voir, je n'ai pas cherché, peut-être que quelqu'un qui a étudié ça pourrait me dire oui ou non.
Oui.
Les deux filles qui ont fait l'institut me disent oui. Comment dis-tu?
L'épître Jude et l'épître de Jacques, c'était la crève de Jésus.
Oui. Alors, Jude, au verset 20 à 25, c'est formidable, je termine là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde toute sa grâce. Aujourd'hui, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même, vous voyez le sens de la responsabilité ? Il faut avoir une relation personnelle et responsable avec Jésus. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Ah, c'est des mots terribles. J'ai en sous des pieds une foi comme un rocher. C'est Dieu qui me l'a donné, une foi en Jésus. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Et priant par le Saint-Esprit. Alors là, tout est résumé pour la vie chrétienne dans un verset pareil. Excusez-moi, je suis ému et puis voilà. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte, très sainte foi, très, hein, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Vous rendez compte ? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Vous êtes en bateau, il y a de la tempête, vous attrapez le garde-corps, le bastingage, et je ne lâche pas. Je mets même une ceinture avec une chaîne et un crochet, je m'accroche. Quand on va, j'ai connu un homme qui venait nous visiter, il allait sur les clochers, il a mis des feuilles d'or sur la boule au-dessus de la cathédrale de Luxembourg. Hein ? 67 mètres, il y avait du vent là-haut. Mais il était attaché par sa ceinture, une corde et un crochet. Et chaque fois qu'il est redescendu, il était attaché à chaque crochet qu'il y a sur le toit. Donc, maintenez-vous, accrochez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. En attendant, c'est un mot, je n'ai pas eu le temps de l'aller le voir en grec, en attendant la miséricorde, c'est-à-dire en vous fondant, et en laissant travailler en vous la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà, c'est formidable. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Vite, 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 il faut que j'aille le trouver, autrement il va se planter. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Certains se corrompent, font vraiment des mauvaises choses. Attention. Attention que je ne retombe dans mes propres péchés. Attention. Je dois prendre de la crainte et je dois mettre un obstacle pour que celui-là, qui est retombé dans des vilaines manies, ne me les donne, me refile, non pas son coronavirus, mais ses péchés, son amour du péché. Ça, c'est très important de savoir. Il faut avoir une pitié mêlée de crainte. Verset 24. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute, donc c'est Jésus, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, donc sans reproche, et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Est-ce que ce n'est pas le résumé de ce que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui ? Méditez ces versets-là, c'est surtout les versets 24 et 25, c'est des monuments ces versets-là. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.
Amen.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi en semaine... Le vendredi passé, c'était un enseignement très très important sur l'actualité du Moyen-Orient. Il sera sur le site, oui, église, etc. Si vous avez reçu ma carte de visite ou une feuille, un courrier, regardez, ou téléphonez pour le demander. Il sera dans quelques jours sur le site. Et ça explique l'actualité de notre monde. Et elle s'approche, notre monde s'approche de son grand rendez-vous, je pense. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.